Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque samedi, nous plongeons dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bienvenue dans toute une vie. Artiste hautement singulière, elle avait croisé les mouvements artistiques de son temps, conservant une liberté totale, réalisant une œuvre unique, structurée par ses émotions. Françoise Esteb et Ghislaine David vous proposent Louise Bourgeois, 1911-2010, c'est toute une vie de rage existentielle et de rage de créer.
Dans mon monde, la violence est partout. Puisque les gens vous écoutent pas, il faut bien être violent.
Par exemple, elle disait « Je ne suis à la recherche ni d'une image, ni d'une idée. Je veux créer une émotion, celle du désir, du don et de la destruction. »
Toute la totalité de mon œuvre a été thérapeutique. C'est-à-dire que l'art devient une thérapie.
Je la cite, donc je m'appelle Louise Joséphine Bourgeois, je suis née le 25 décembre 1911 à Paris, un jour de Noël, c'est important.
Marie-Laure Bernadin.
Tout mon travail, dit-elle, des 50 dernières années, tous mes sujets, trouvent leur source dans mon enfance. Mon enfance n'a jamais perdu sa magie, elle n'a jamais perdu son mystère ni son drame.
Comme elle disait, j'ai la chance d'être insomniaque. C'est formidable, je peux travailler toute la nuit ou une grande partie de la nuit, je fais des dessins la nuit, donc il y a
Jacqueline Cou.
Des centaines de milliers de dessins, enfin c'est prodigieux. Si elle n'était pas en train de dessiner, elle était en train d'écrire, si elle n'était pas en train d'écrire, elle était en train de composer des textes de paroles, elle préparait ses dessins pour ses sculptures, elle était constamment en travail, en création et même à la fin, donc quand on la voit là évidemment quand même très handicapée physiquement, mais elle a toujours un papier, des pinceaux, des crayons, elle dessine, elle peint, elle n'arrête pas jusqu'au bout. Je crois que il y avait un débordement constant, il fallait que quelque chose s'exprime constamment, sous risque d'explosion, si ça n'avait pas pu se faire, vraiment, ou sous risque de déchirement, puisque ça, c'était aussi quelque chose qu'elle craignait, que quelque chose en elle ne se déchire par la force de ses pulsions contraires, qui constamment cherchaient des issues.
D'ailleurs, elle a fait de nombreux dessins, parfois très très beaux,
Bruno Maton,
avec des choses répétitives, comme ça, tout le temps répétitives, comme si elle regardait le feu, comme si elle entendait l'eau couler. Cette permanence du trait qui ne finit jamais. Quand elle fait ses ronds, elle pourrait les faire à l'infini. Ou ses petites boucles avec lesquelles elle fait des fleurs, ou elle fait deux yeux, ou elle fait tout un visage qui n'est pas un visage et qui devient une forme et qui peut devenir une sculpture aussi. Elle a pénétré l'art du dessin, je crois, dans son essence même.
La maison était très encombrée, autant que je m'en souvienne, d'un tas d'objets, de
Xavier Girard.
Récupération. Dans l'escalier qui menait aux chambres, à l'étage, était suspendue cette sculpture célèbre qu'elle a appelée Fillette, un phallus considérable au-dessus des marches, et qui veillait sur vous, ainsi qu'un certain nombre d'objets et de sculptures à l'allure, somme toute, assez effrayante dans la lumière un peu pénombreuse de cette maison. Cela contrastait vivement avec les ateliers de post-minimaliste, post-abstraction expressionniste américaine, très propre, impeccable, blanc, d'une rigueur totale. C'est comme si on entrait dans la caverne ou dans la tanière, c'est le nom en l'air d'un certain nombre de ces sculptures, dans la tanière d'une artiste qui se contrefichait de la façon dont elle allait être perçue par un historien d'art, un critique d'art, un conservateur de musée, et qui poursuivait son entreprise, non pas à l'écart du monde de l'art new-yorkais, car elle y connaissait tout le monde, mais dans la singularité de son aventure artistique, en proie à ses hantises, ses peurs, ses exigences, son ambition, et une certaine volonté aussi d'être comprise par ses interlocuteurs. Nous étions face à une femme déterminée à ne pas, comme elle le disait, être ratiboisée. Autrement dit, réduite, par exemple, à une épigone du surréalisme, à quelqu'un qui aurait flirté avec l'art antiforme. Elle l'avait exposé avant avec Bruce Nauman, Robert Morris, Eva Hess. Une femme libre, aux propos incisif, qui, lorsqu'elle vous regardait, ne faisait pas acte de socialité, de courtoisie. Et vous étiez donc un peu sur les charbons ardents. C'était à la fois délicieux et inconfortable.
Je lui ai téléphoné après l'exposition qui avait eu lieu au Musée d'art moderne de Paris en 1995. Et j'avais été frappée par son travail et également frappée par sa personnalité. Donc j'ai, à partir de ça, décidé de l'appeler. J'ai téléphoné, c'est elle qui m'a répondu directement, pas du tout d'intermédiaire. Et là, je lui ai expliqué ce que j'avais éprouvé par rapport à son travail, par rapport à sa voix et par rapport au son qui m'intriguait. Et je lui ai dit, voilà, je vais pas venir avec une caméra, j'ai envie de venir avec un magnétophone et j'ai envie de vous enregistrer, vous, et d'enregistrer les sons de votre atelier. Et elle est partie d'un grand éclat de rire, elle m'a dit, venez. Je suis arrivée sur son perron avec un très joli bouquet de tulipes. Et puis, je lui ai présenté le bouquet qu'elle a pris, qu'elle a déshabillé, elle a retiré le... Et ensuite, tout en me regardant bien, fixement, elle a commencé à retirer quelques feuilles, donc ça me paraissait normal. Et puis, les choses se sont aggravées, puisqu'elle a commencé à en briser les tiges, toutes les tiges. Et là, je me suis dit, si je ne fais pas quelque chose, c'est terminé. Là, je suis en train de passer d'une façon pas consciente ou inconsciente, ça je n'ai jamais su, elle est en train en tout cas de me faire subir un test, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être, capable de répondre, et si elle est capable de répondre, on peut commencer ensemble, si elle n'est pas capable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas supporter le dialogue qu'on doit mener ensemble. Donc là, j'ai sorti le magnétophone que j'avais avec moi, et elle a attendu que tout soit bien installé, et là elle a repris le fait de briser les tiges, et les tiges de tulipes, ça fait un son magnifique. Donc j'ai enregistré ces sons, nous étions toujours en silence, hein. Et ensuite je lui ai fait écouter. Et là la conversation a pu commencer, elle m'a à ce moment-là demandé d'aller faire du thé dans sa cuisine, ce que j'ai fait. Elle s'est, elle, installée sur un très haut tabouret, et quand je suis arrivée vers elle avec cette tasse de thé, elle était en train de rouloter le bord de sa jupe comme une enfant vraiment intimidée. Et lorsque je lui ai donné la tasse, elle a pris la tasse et le thé s'est renversé. Donc la peur était réelle. Et ce que je lui ai dit à ce moment-là, et qui lui a amené un sourire, c'est voilà, ben Louise, vous êtes vraiment comme la représentation de vos femmes maison, vous nous accueillez avec un couteau dans la bouche.
À l'heure du dîner, pendant le repas, pendant le dîner, ma mère voyait sur le visage de mon père une certaine crispation, une certaine irritation. Et mon père, qui était un homme d'émotion, ne pouvait pas contrôler son irritation sans insulter les gens. Et ma mère essayait d'éviter ça. Et alors, avant le repas, elle mettait à côté de l'assiette de mon père une autre assiette qu'il avait l'autorisation de briser.
Alors elle a eu un père tout de même incroyablement difficile, cruel, on peut dire, je crois, despote, hein, qui crée un climat de violence dans la maison, constamment. Il y a cet épisode qu'elle raconte de l'orange, voilà, où son père dessine une silhouette de femme sur la peau d'une orange, qu'il coupe avec son couteau, qu'il ouvre comme ça, et lorsqu'on ouvre l'orange, à l'endroit du sexe, il y a encore présent la petite tige blanche qui est dans le cœur de l'orange, enfin le haut de l'orange, et montrant aux invités, voilà, vous voyez, ça pourrait être Louise, mais ce n'est pas Louise, parce que ce qui est là montre que ce n'est pas Louise. Et par ailleurs, cet homme a vécu pendant 10 ans une relation amoureuse et sexuelle avec la personne, la jeune femme qui était venue là pour donner des cours d'anglais à Louise et aux enfants.
Et qui vivait donc
Et qui vivait sous famille. Le même toit. Louise, à l'époque, avait 10 ans. Ça a été une trahison multiple, à multiples entrées, on va dire. C'est-à-dire qu'en effet, son père aimait mieux cette Sadie, puisqu'elle s'appelait Sadie, que Louise. Il trahissait sa mère, il trahissait les enfants, et par ailleurs, sa mère ne se révoltait pas, ce qui lui a aussi beaucoup posé problème. On met très souvent en avant la relation de Louise avec son père. Évidemment, il y a la destruction du père, il y a cette œuvre très forte qu'elle a faite aussi pour essayer d'évacuer ce traumatisme, où on a en effet dans une sorte de caverne, une espèce de grotte, des morceaux comme ça d'un père qui aurait été dévoré ou mis en pièces. Mais notamment vers la fin de sa vie, et je crois que c'est en lien aussi avec les dernières œuvres qu'elle a faites à partir des années 2007, qui sont énormément sur la maternité, qui sont des œuvres où en effet on a souvent soit des dessins de seins qui nourrissent, soit cette femme enceinte avec ses enfants qui sont soit en train de naître, soit en train d'être portés, quelque chose d'assez effrayant. À cette époque-là, elle me parlait davantage de sa mère et de ce qu'elle reprochait à sa mère.
On peut se demander, devant certains dessins, certaines sculptures, si ce père n'était pas un père incestueux, parce qu'on a le sentiment que le thème de l'inceste parcourt un peu son œuvre.
Je pense qu'il devait y avoir des choses ambiguës, certainement.
Bonjour Tristesse, et l'histoire d'une fille, d'une jeune fille comme moi, même âge, exactement même âge, qui tue la maîtresse. Par conséquent, c'était un drame qui me touchait de très très près. Et elle est maligne comme un singe, elle est beaucoup plus maligne que la maîtresse, qu'est-ce qui se passait chez moi. Et elle est arrivée à la tuer. Alors ça c'était tout à fait mon affaire. Oui. Elle décrivait un crime que moi j'aurais aimé opérer 10 ans avant, vous comprenez, c'était juste exactement la date.
Bruno Maton, il y a beaucoup d'œuvres de Louise Bourgeois qui sont très dérangeantes. Il y en a une, par exemple, qui est un pénis en érection et qui est suspendu, comme toujours. Enfin, elle suspend beaucoup de ses sculptures. Et le titre est très provocant, parce que le titre est « Fillette ».
Oui.
Alors, comment doit-on interpréter une œuvre comme celle-ci?
C'est le regard de la fillette, bien sûr.
Ah, c'est comme ça que vous l'interprétez?
Ah oui, 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 je crois. C'est la petite fille qui voit pour la première fois de sa vie le pénis d'un homme. Alors, elle l'extrapole. Il est gigantesque. Il fait 1m50. Elle se moque, et puis elle se balade, se fait photographier dans plusieurs positions d'ailleurs. Il y a plusieurs photos qu'il faudrait faire avec ce grand pénis exprès. Elle se moque aussi des hommes.
Et de son père avant tout, et de toutes les figures
du père,
paternelles.
Bien sûr, mais de tous les hommes,
oui,
aussi.
Oui.
Qu'elle aimait d'ailleurs, elle aimait beaucoup les hommes, hein. faut pas non plus se tromper, hein. C'était pas une suffragette détestant les hommes, hein. Au contraire, mais elle se moque d'eux. Toujours le poison.
Thank you.
Alors elle dit pourtant, dans mon art, je suis l'assassin.
Elle ne dit pas seulement cela. Elle dit, dans la vie, je suis la victime, mais dans mon art, je suis l'assassin. Ça fait partie de cette rhétorique de Louise Bourgeois, du balancement, des contradictions juxtaposées. Lorsqu'on observe son œuvre, comme ses propos, on est constamment frappé par ce balancement entre une affirmation et son contraire. L'homme qui a son revers féminin, la bête qui a son revers humain, le mou qui a son revers de marbre, l'organique qui flirte avec la géométrie, la naissance qui est une sorte de mort. Alors cette victime qui prend la place du bourreau, ça fait partie de ces jeux de miroir ô combien présents dans son œuvre. C'est la mère dévoratrice. C'est le père incestueux, et c'est tout en même temps le discours de la séduction de la fille à l'égard du père, de la femme à l'égard de l'homme à l'égard de la femme. Donc on est là dans un jeu tournoyant, spiralé pourrait-on dire, d'antagonisme, d'antithèse productrice de l'œuvre.
Elle commence très jeune, hein, puisqu'elle commence à aider ses parents à réparer ses tapisseries, qui est une chose très intéressante. Donc à étudier toute la technique de la tapisserie, mais c'est coudre, hein, c'est toujours faire des points, et à étudier les couleurs, à reproduire des morceaux de tapisserie, donc à dessiner. Donc elle entre à partir de 13-14 ans dans un travail, tout en continuant les études, puisqu'elle passe le bac. Mais elle aide ses parents dans ce travail de restauration. Et c'est une chose qui est très importante dans la mesure où je crois que l'idée de restauration est l'idée qui traverse toute sa vie. Elle veut restaurer quelque chose, c'est-à-dire restaurer un bonheur rêvé qu'elle n'a jamais eu. Elle raconte quelque part, je crois qu'elle était à New York après son mariage donc avec son père, et son père lui dit « Ah, tu te souviens comme on était bien autrefois ?» Et elle lui répond « Ah non, je m'en souviens pas. » C'est pour ça qu'elle a peut-être quelque chose à voir, à mon avis, avec l'entreprise proustienne, dans la mesure où justement Proust essaie de restaurer quoi ? Le temps. Et chez Louise Bourgeois, ce n'est pas le temps. C'est les émotions, les sentiments.
Mais ma mère, qui était une femme d'opinion politique avancée, c'est-à-dire qu'elle était très à gauche, elle m'a dit un jour, tu ne toucheras jamais l'aiguille. Je ne veux jamais que ma fille soit une ouvrière. Alors je n'ai jamais touché l'aiguille. J'ai touché le fusain et les dessins. Elle m'a encouragée à aller au lycée et à avoir une éducation.
Dans les années 30, elle va aller dans différents ateliers, l'atelier de Fernand Léger notamment.
Je crois qu'elle n'a pas été vraiment acceptée aux Beaux-Arts, donc elle fait l'Académie Julian, Rançon, elle suit aussi les cours de Paul Collin, de Cassandre. Et avant ses études artistiques, elle a même essayé des études à la Sorbonne, en mathématiques, en philosophie.
Marie-Laure Bernadac.
Elle était au lycée Fénelon, elle est retournée au lycée pour passer son bac, et qu'elle a eu... Tout en travaillant quand même de temps en temps, elle donnait un petit coup de main à l'atelier où elle dessinait déjà les chevaux manquants ou les pattes des motifs fragmentaires et lacunaires des tapisseries anciennes de ses parents. Elle fait en même temps l'école du Louvre. Elle parle parfaitement anglais, l'héritage de Sadie, de la fameuse maîtresse. C'est au moins, elle a quand même appris l'anglais. Donc, elle peut donner des conférences à des Américaines riches. Elle gagne un tout petit peu sa vie aussi. Elle s'occupe aussi à l'Académie de Fernand Léger de toutes les Américaines qui venaient. Et là, elle a quand même un très bon contact avec Fernand Léger qui, en voyant ses dessins, lui dit « Mais Louise, vous êtes sculpteur. Il faut que vous occupiez de la forme. Vous êtes sculpteur. » Elle mettra encore un certain temps à passer au volume, mais elle se souvient toujours de cette phrase. Elle est aussi... tout petit peu en relation à cause de l'endroit où elle habite à cette époque-là, tout près de la galerie de la rue de Seine, la galerie surréaliste, même si elle n'aime pas du tout, qu'elle ne s'est jamais sentie affiliée au mouvement surréaliste, elle est quand même au courant de ce qui se passe. Mais quand on lit, on a redécouvert une correspondance qu'elle a eue avec une collègue peintre qui s'appelle Colette Richard. on s'aperçoit qu'elle avait une formation très académique, même si dans sa lettre, elle critique beaucoup l'enseignement de Bissière qu'elle a eu. Enfin, elle parle de peintres qu'elle aimait bien, ou d'artistes qu'elle aimait bien. Et si elle n'était pas partie aux États-Unis, je me suis souvent dit qu'elle n'aurait pas été une artiste aussi importante. Quand elle rencontre le fameux Robert Goldwater, cet historien d'art, conservateur au Musée d'Art Moderne, premier historien d'art à avoir travaillé sur l'influence du primitivisme sur l'art moderne, il a créé le premier musée d'art africain d'art primitif à New York. Donc c'était une personnalité très reconnue de la scène new-yorkaise artistique et culturelle.
Elle a eu la chance d'être à New York à un moment qui lui a permis de fleurir.
Bruno Maton.
Parce qu'il y avait une extraordinaire floraison artistique et culturelle à New York à partir des années 30. Hein. Il y avait une volonté d'identifier un art américain. Alors comme c'est un pays d'immigrants, bah, Louise Bourgeois, c'était une américaine pour eux. C'était de l'art américain. Donc elle a eu cette chance d'épouser un historien d'art qui connaissait tout le monde. Elle a rencontré tous les grands artistes. Bon, elle a exposé quand même assez tôt, mais elle n'est devenue célèbre et reconnue que très très tard. Et je crois d'ailleurs qu'elle a souffert de cette non-reconnaissance.
En même temps, elle dit que c'est ce qui lui a donné cette très grande liberté.
Évidemment, puisqu'elle n'est pas tombée dans les pattes du marché. Donc elle n'a pas été prise par les différents courants, les modes, etc., etc., jusqu'au pop art, tout ça. Ouais.
Elle a pu expérimenter en permanence.
Oui, oui. Et cette expérimentation, justement, a pris une certaine direction parce qu'elle a choisi la sculpture plutôt que la peinture, hein, à partir d'un moment, ce qui l'a amenée à l'installation, à la disposition de ces objets. Bon, et puis, elle est arrivée à une... Dans le Red Rooms, par exemple, cette installation qui est entièrement sur la couleur rouge.
La chambre des parents.
Oui. C'est quand même quelque chose d'extraordinairement magique et effrayant.
Il y a les années de guerre où elle s'occupe beaucoup de tout ce qui est défense de la culture française, la résistance. Elle voit Marcel Duchamp, elle voit Miro, elle voit beaucoup de personnes à cette époque-là. Elle se met à la gravure. Et ce n'est qu'en 1950 qu'elle fait ses premières sculptures.
Qui sont des personnages.
Qui sont des personnages et qui sont un petit peu le mal du pays. Déjà dans ses gravures et peintures, on voit apparaître le thème fondamental de la femme maison, qu'elle va décliner tout au long de sa vie, hein, jusqu'en passant par les tanières, les cellules, jusqu'au ventre maternel, qui est d'une certaine façon la dernière demeure. Et c'est à la fois cette prison, mais aussi cette protection de la maison. Et donc, elle commence à sculpter des personnages en bois avec du bois de balsa qu'elle va récupérer un peu partout, qui est un bois très léger. Et elle sculpte ces personnages sur la terrasse du toit de sa maison à New York. Et elle les fiche comme ça dans le sol ou leur fait un tout petit socle. Et elle dit « Je recrée tous les personnages auxquels je pense, qui m'ont manqué. » C'est aussi elle, sa propre vie, la femme portant des paquets. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on voit une sorte de correspondance avec la sculpture africaine. C'est vraiment des sculptures d'exorcisme.
Elles sont magnifiques, ces sculptures des années 45-47,
Jacqueline Coup.
Où on a ces grandes silhouettes comme ça, extrêmement effilées, voilà, qui ont l'air de se chuchoter, d'être placées les yeux, et de se dire des choses comme ça, au bord de l'endormissement, au bord du rêve, de communiquer quelque chose de très secret entre elles. Mais il y a quelque chose pour moi là d'extrêmement doux et tendre et intime.
Parmi les thèmes de Louise Bourgeois, il y a le corps souvent démembré, des parties du corps.
Oui. Et plus particulièrement dans la dernière partie de l'œuvre où des mains apparaissent, des mains très expressives, soit de décontraction, soit de tension, où des corps sans tête apparaissent, où des animaux humains apparaissent sans tête. Ou bien encore dans la destruction du père, c'est un corps à la fois pourrissant et juvénile qui ne trouve plus son unité et qui est prêt à être dilacéré. Ce sont des corps écorchés qui apparaissent, sont ces rabbits, ces lapins écartelés. C'est un corps qui est hors de ses gonds, comme dans ces représentations des supplices chinois. écorché et tout à la fois jouissant. Mais c'était aussi le corps de Louise elle-même qui était très particulier, très singulier. Elle était toute petite et cependant d'une puissance formidable. Il y avait chez elle une fragilité colossale. Elle entrait dans une pièce et certains enfants donnent cette sensation-là de grande force. Certaines petites filles notamment, qui n'est en quelque sorte que l'autre face de leur fragilité. Et c'était ce qui apparaissait chez Louise. Alors avec l'âge, ça s'est accru encore. Quand elle arrivait à la fin de sa vie avec son déambulateur dans sa maison, on pensait évidemment à ses sculptures. Et on pensait notamment aussi à ses dessins. À ces dessins où les femmes sont souvent en proie à des objets qui sont au fond tout aussi fragiles qu'elles, mais sur lesquels elles prennent appui. Toute la sculpture de Louise est une façon de tenir debout. Et l'un des sculpteurs qui a compté pour elle a été évidemment Giacometti.
Il y a une grande part de causticité dans son œuvre.
Oh bah oui, beaucoup d'humour, énormément d'humour. Et de l'humour à travers des objets aussi. Quand elle fait une femme couteau, par exemple. Alors toutes les formes féminines absolument délicieuses, comme ça. C'est délicieux avec un petit décolleté, des petits seins délicieux. Et puis là, c'est... On pourrait se couper en touchant ce personnage-là.
C'est un humour carnassier.
Ah oui. Il y a un côté grand fauve chez cette femme. Oui. Côté tigresse, je crois, oui. Quelque chose de... qui déchire.
Ces photos ont été publiées dans un livre que l'on peut trouver, de Maki Xenakis, Louise Bourgeois, L'aveugle guidant l'aveugle. Elle montre des photos de classe. La première est une photo de 1922, au lycée Fénelon. Mais ce qui est très particulier dans cette photo, c'est qu'il y a là une amie, Annie Ségalène, la fille de Victor Ségalène, dont elle a pointé avec une aiguille la paupière supérieure d'un de ses yeux, et a fait un trou au niveau du sexe de cette amie. Mais il y a une autre photo où nous sommes en 1924, et là, cette fois, elle lui arrache le cœur. Et en 1927, elle efface son propre visage. Elle le gratte. À vrai dire, ces activités d'attaque, corps photographié, font penser à ces réflexes que l'on rencontre très souvent dans le métro, dans les rues, devant les affiches, où les dents, les yeux ont été crevés, où le visage a été atteint. Et cela relève d'une violence proprement passionnelle. Mais c'est aussi, puisqu'il s'agit là de photographies anciennes, comme une façon de raviver des sensations, des sentiments vécus bien des années auparavant, et des sentiments refoulés. Et tout un pan de sa sculpture relève de cette sorte d'agressivité en retard. Car ce qui est insupportable, c'est le défendu, c'est l'interdit avec lequel on vit, et dont on s'accommode et qui vous étouffe.
And your mother, how is your mother? Does she treat you all right?
Oh, yeah.
You treat her all right?
Oh, yeah.
Okay.
She's great. She's doing real good.
Yes.
Working a lot.
Thank you.
Mais il y a des mères qui sont comme ça. Elles n'aiment pas beaucoup leurs enfants. Non, non, son désir de plaire à elle était complètement, complètement dirigé vers son mari.
Et ensuite, Louise Bourgeois, alors passe à un autre matériau.
Oui, après cette rigidité du bois, enfin surtout ces formes très verticales, très géométriques.
Marie-Laure Bernada.
Elle aborde dans les années 60 des matériaux beaucoup plus souples, qui sont le latex, qui sont le plâtre, bon, qui après donnera des bronzes, donnera des marbres. Et on voit des formes beaucoup plus érotiques, organiques, qui sont des seins, des mamelles, des formes moitié masculines, moitié féminines, où elle associe toujours le féminin au masculin. Et là, elle fait aussi beaucoup de tanières et de refuges, hein, des formes suspendues dans des arbres, comme une espèce de nid d'oiseau, dans lequel, évidemment, on imagine qu'elle se terre. Et ces sculptures très informes, très organiques, vont être vues par la critique d'art américaine, historienne d'art Lucy Lippard, qui va la montrer dans une exposition très importante en 65 qui s'appelle Eccentric Abstraction, où elle montre à la fois les jeunes artistes américains qui sortent du minimalisme, comme Eva Hesse, comme Bruce Nauman, qui sortent de l'art conceptuel et qui sont de nouveau hantés par la figure du corps, par la sexualité, par la subjectivité, par des matériaux assez peu nobles comme le latex ou le caoutchouc. Et ça marque un vrai tournant dans son œuvre. Tout d'un coup, quelqu'un voit à quel point elle est pionnière, à quel point toutes ces sculptures des années 62, 63, 64, toutes ces tours en forme de phallus, bon, ça va jusqu'en 68, à la fameuse fillette en latex suspendu. Et ensuite, il faut attendre les années 70 avec la destruction du père et les premiers grands environnements et performances. Elle fait beaucoup de sculptures en bois aussi à l'époque. À partir de ce moment-là, elle a déjà une tellement grande liberté de style, de création et de matériaux qu'elle va avoir de plus en plus travaillé et commencer comme à montrer un tout petit peu son travail dans des galeries et rencontrer un personnage essentiel qui est Jerry Gorovoy, qui va devenir son assistant, ce jeune artiste qui va rester avec elle pour la rassurer, pour l'aider à faire des expositions, pour l'empêcher de s'autodétruire, parce qu'elle-même, non seulement ne montrait pas, mais parfois détruisait son travail. Dans les années 70, les féministes vont aller la chercher comme figure pionnière de l'artiste femme, de sa liberté par rapport à la sexualité, par rapport à la féminité, sur tous ces aspects.
Louise Bourgeois n'est pas une artiste expressionniste. Et c'est ce qui fait la singularité de son œuvre. C'est une artiste qui, dans les matériaux qu'elle utilise, met en scène, met en place des pensées.
Xavier Girard.
Qui sont pas seulement des pensées de l'effroi et de la peur, qui sont aussi des pensées de la jouissance, des pensées de l'envol, des pensées d'une extrême liberté d'itinérance, de mouvement. Il y a chez elle des pensées plumes, que sont les dessins. On pourrait dire qu'il y a aussi des pensées foules, que sont certaines sculptures où elle rassemble ces petites têtes de marbre qui sont autant de personnages manifestants fermement contre la ségrégation, contre les injustices. Il y a des pensées peur, la solitude au milieu, dans une cellule, entourée par des panneaux de bois, avec un petit tabouret. Il y a des pensées de fragilité, ces grandes maisons fragiles qui se dressent et qui oscillent dans l'air. Il y a des pensées sexe. Ce Janus fleuri qui conjoint un sexe féminin et deux sexes masculins. Toute cette thématique de l'œil, chez Louise Bourgeois, c'est une pensée du regard. Voir, être vu, se cacher, apparaître. On lui pose la question à propos d'un petit dessin où on voit simplement un visage qui apparaît comme ça, qui ouvre le rideau, un peu comme Sarah Bernhardt, comme ça, qui ouvrirait le rideau de scène. Et alors, quelqu'un lui pose la question, c'est quelqu'un qui regarde ? Non, dit-elle, c'est quelqu'un qui se cache. La pensée Louise Bourgeois est constamment dans un jeu d'avers et de revers. Ses yeux dans la pierre, regarde-t-il ou se laisse-t-il voir à travers cette espèce de globe écarquillé qui semble les exposer à un aveuglement, tant les yeux sont ouverts un peu comme dans Orange Mécanique. Mais il y a aussi des pensées cheveux. Par exemple, toutes ces femmes avec des cheveux qui environnent la tête, mais qui aussi se passent fort bien du visage et qui sont comme des espèces de traînes volantes. Alors, on interroge sur le sujet. Oui, Les cheveux, bien sûr. Les cheveux, c'est la puissance. Samson et Dalila, c'est la beauté, c'est la séduction. Mais elle dit aussi, ailleurs, une phrase merveilleuse à propos de ces itinéraires d'enfance. Ses cheveux, c'est des itinéraires. C'est des itinéraires entre elle et le lycée Fénelon, entre elle et Choisy le Roi, entre elle et Anthony, où se trouvait la maison de sa grand-mère.
En fait, il ne s'agit pas de représentation, ni même d'une réelle symbolique. Il s'agit d'une construction qui n'est pas non plus un produit d'une volonté esthétique, mais qui est là pour créer une sorte de déclenchement d'émotivité. Et c'est là où elle est extrêmement moderne, c'est-à-dire elle veut un rapport direct avec l'œuvre. Elle veut que le spectateur, celui qui regarde, soit touché directement, et c'est pour ça qu'elle en vient à l'installation. C'est-à-dire quand elle met un objet et qu'elle l'entoure, avec quoi ? Avec que des portes. Ces portes sont toutes fermées, mais ce sont des portes. Elle avait compris que l'évocation était une des sources de la création moderne, et non plus la représentation.
Elle était encore très décalée et marginale dans les années 80. C'était obscène, trop personnel, trop biographique, trop féministe, des matériaux de toutes les sortes, échappant à tout style.
Trop viscéral.
Trop viscéral, on n'arrivait pas du tout à accepter ce genre de... Donc Paris refuse l'exposition à cette époque-là, et c'est Lyon qui la monte. Dans les années 90, bon, après la grande rétrospective du MoMA, c'est la première fois que le musée d'art moderne consacre une grande rétrospective à une artiste femme vivante. Elle a des grandes commandes d'exposition. Plus elle était âgée, plus elle est devenue artiste contemporaine. Et donc là, elle fait ses cellules. C'est comme si elle avait besoin de théâtraliser tous ses souvenirs, de rassembler à la fois des vieilles chaises de grenier, des robes qui lui appartenaient, des boules en bois, des pendentifs en caoutchouc, des vieilles portes. Parce qu'elle a à ce moment-là cet immense atelier à Brooklyn qui est un ancien atelier de couture. Donc elle trouve des machines à coudre, comme par hasard, tout un tas de vieilles portes, de vieilles fenêtres, et elle fait des sculptures de plus en plus monumentales, dans lesquelles elle recrée une espèce de petit théâtre de la mémoire. Et ce sont toutes ces cellules, donc Precious Liquid, qui est montrée à Documenta, et qui a été un choc parce que c'est une œuvre extrêmement émouvante qu'elle a fait dans une water tower, dans ces tours réservoirs qui sont sur les toits de New York. Donc elle a vidé de son eau, et dans lequel elle met un lit avec de l'eau au fond du matelas, des cornues pour la circulation des humeurs et de tous les liquides du corps. Et on voit un grand imperméable, une grande figure de père autoritaire, avec l'intérieur une petite robe d'enfant, avec merci, merci.
Mais c'était merci et merci, pitié.
Merci, pitié. Merci et merci. I et Y. Grand imperméable, un peu suspendu et sur deux boules en caoutchouc. Donc encore, on voit une espèce de rapport au père, entre la petite fille et le père. Impressionnant, en fait. Donc cette œuvre Précieuse Liquide, elle a été achetée donc, par le musée d'art moderne et présentée maintenant au Centre Pompidou. Mais elle était un déclencheur de toute cette série de cellules qu'elle montrera après à la Biennale de Venise. Donc la cellule Archapisteria, la cellule avec les yeux.
Et elle disait que toute son œuvre, c'était pour elle de mettre de l'ordre dans le chaos.
Oui, je dois dire que c'est ça qui m'a portée vers elle. J'ai senti quelque chose de l'ordre de ce chaos terrifiant qu'elle parvenait à mettre en œuvre. Donc je voulais vraiment essayer de comprendre avec elle comment elle fonctionnait, comment elle arrivait à être dans un magma comme ça, quelque chose d'incandescent, qui est quand même synonyme de grande souffrance, de brûlure, et arriver à construire quelque chose qui prenne une forme, qui garde quelque chose du chaos encore, mais qui est accessible, qui est communicable. Je me suis habituée à considérer le problème, de façon à ce que, si le problème est bien compris, on accepte les deux. On accepte, lundi tu veux le tuer, mardi tu veux le ressusciter, mercredi tu veux être pardonné, jeudi tu veux pardonner toi-même,
Vendredi, tu veux plus en entendre parler. Dimanche, tu te reposes. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Ouais. C'est ça le mot de toute une vie, la vie d'une ambivalente.
C'est Double Cellule de 95. On voit la scène interdite du lit des parents dans une sorte de cellule entourée de portes de bois, et parallèle une plus petite cellule qui est la chambre des enfants, qui est un espèce de monde imaginaire avec des tas d'œuvres en verre, en tissu, des pelotes de fil d'aiguille de toutes les couleurs. On sent bien qu'il y a tout d'un coup une scène primitive qui se joue. Ça passe aussi par un travail sur le tissu, sur les broderies, quand tout d'un coup elle abandonne un peu le travail un peu en force que représentait la construction de ces cellules, et qu'elle se met de plus en plus à faire des aiguilles, des fuseaux. Donc là, elle se rapproche de plus en plus de la tapisserie et du rôle et de la fonction de sa mère. Et donc, assez naturellement, arrive le fil de l'araignée, et donc l'araignée en sculpture qui va se décliner dans des formes plus petites et d'autres beaucoup plus monumentales, jusqu'à la grande cellule qu'on appelle la cellule avec la tapisserie, la cellule spider, où elle mêle à la fois la maison, donc la cellule, et la grande figure de l'araignée qui coiffe cette cellule. Et parallèlement, elle écrit « Maman, maman, l'araignée, c'est maman » dans de nombreux textes. Pour elle, l'araignée est une figure protectrice. D'abord, c'est la tisseuse par excellence. C'est le mythe d'Arachné, la grande tisseuse, la brodeuse. Donc la tisseuse par excellence, qui était méticuleuse, patiente, ordonnée, rigoureuse, c'est sa mère. Sa mère qu'elle a perdue très jeune aussi. Je pense que s'il a eu du mal à parler pendant très longtemps de sa mère, bon, d'abord, il y avait une relation très forte avec son père. Elle a 21 ans quand elle perd sa mère. Donc je pense que ça a été dramatique pour cette jeune femme de perdre sa mère et de se retrouver seule confrontée à son père avec cette relation assez ambiguë, limite incestueuse, on pourrait dire, en tout cas sur le plan psychique.
Elle a fait une tentative de suicide d'ailleurs après la mort.
Elle a fait une tentative de suicide, c'est son père qui l'a sauvée, elle s'est jetée dans la Bièvre. Bon, faut pas oublier non plus que Louise était quelqu'un de très fragile. Et donc tout d'un coup, très tardivement, le souvenir de sa mère revient. Et là, on s'en est rendu compte dans des petits films ou dans des petits écrits où il y a des petits poèmes extrêmement émouvants sur « Maman, j'ai besoin de toi, maman, je t'aime ». Enfin, tout d'un coup sortait une énorme émotion d'une petite fille abandonnée.
C'est le murmure de l'eau qui boue, c'est le murmure de l'eau qui chante. C'est le murmure de ta voix qui me remplit de joie. Ah là là.
C'est une araignée énorme.
C'est terrible.
Vous pouvez passer en dessous, hein. Attention. Et elle est terrifiante. Elle est terrifiante. Il y a dans le génie de Louise Bourgeois quelque chose d'extrêmement agressif. Et de proprement féminin aussi, à mon avis, et aussi d'extrêmement, je ne dirais pas toxique, mais peut-être il y a quelque chose d'empoisonné dans son œuvre. Il y a un poison à l'intérieur de l'œuvre, et ce poison, elle a besoin d'une victime. Et la victime, c'est vous, bien sûr. C'est-à-dire, il y a aussi un démon dans cette œuvre, c'est évident. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas laissé les gens indifférents. Ils ont tout de suite senti ce côté extrêmement puissant et presque diabolique de certaines œuvres. Et la disposition magique,
voilà.
Et le côté extrêmement sorcier de beaucoup de ces installations.
Elle a un côté vampirique.
Oui, on peut dire ça. Mais ce n'est pas le sang qu'elle suce, je crois. C'est un poison qu'elle essaie de mettre dans la société. Parce que cette société, elle ne l'aime pas. Et il y a chez elle quelque chose... Comment dire ? Elle pense au fond d'elle-même que l'homme n'est pas un être bon, je crois. Et qu'il contient aussi beaucoup de tendresse, beaucoup de bonnes choses, mais que fondamentalement, il y a un équilibre entre ces choses peut-être lumineuses et cette nuit noire à l'intérieur de l'homme. Ce qui est aussi considérable dans cette œuvre, c'est que c'est l'œuvre d'une femme et que cette œuvre est d'une très grande puissance. Puissance qu'on accorde toujours aux hommes. Eh bien non, là, elle contredit ça. Et c'est là où elle est aussi très importante. Louise Bourgeois, elle dit quand même que quand on est un artiste femme, il faut prouver qu'on a de la valeur, et puis il faut le reprouver, et puis il faut le re-reprouver à chaque fois. C'est-à-dire, elle n'était pas dupe de cette société et de son machisme généralisé à l'époque. Pas oublier qu'elle est née en 1911.
Vous avez dit un jour, Bruno Maton, que chaque œuvre de Louise Bourgeois est un acte redoutable.
Oui, oui, oui. Je crois que il y a dans l'œuvre de Louise Bourgeois une protestation profonde et donc une agression, quelque part. Une agression, elle agresse le monde. C'est pas qu'elle en veuille au monde, non, pas du tout. Mais sa puissance, sa volonté de puissance, je dirais même, pour employer le terme de Nietzsche, cette volonté de puissance qui est vitale chez elle, profondément vitale, est quelque chose qui a tendance à dénoncer, à agresser, à piquer, à empoisonner. Elle cherche aussi à détruire quelque chose. Elle cherche non pas à détruire la source de ce qui fait souffrir l'être humain, mais simplement elle cherche à compenser sa propre souffrance, je crois, non pas en faisant souffrir les autres, mais en faisant apparaître l'étendue de la douleur. Non pas avec un pathos, le pathos de l'individualité souffrante, mais avec l'agression, justement. Et c'est là où son symbolisme devient très efficace, parce que cette agression contient l'élan vital. Et cet élan vital, il parle beaucoup plus que le pathos, cher au XIXe siècle, n'est-ce pas? On va faire pleurer tout le monde. Eh ben non, elle veut pas faire pleurer. Elle a assez pleuré comme ça. Elle veut se venger de quelque chose. Et c'est ça qui est beau, d'ailleurs. C'est ça que j'aime, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement vital dans cette volonté de vengeance contre le monde. Vengeance de femme, vengeance de petite fille, vengeance d'être humain aussi. Et c'est là où aussi se niche une partie de son génie.
Vous avez exposé Louise Bourgeois à la maison de Balzac, Yves Gagneux.
Je lui ai écrit début 2005 en lui disant « Est-ce que vous pourriez concevoir l'idée d'une exposition à la maison de Balzac ?» En 2008, j'ai reçu un courrier de l'atelier Louise Bourgeois avec un cliché joint. Et le cliché, c'était une œuvre, la première œuvre que je voyais en rapport avec Eugénie Grandet. Donc, Louise Bourgeois avait décidé de créer des œuvres en rapport avec Eugénie Grandet. Nous avons par exemple présenté une série de 16 petits panneaux qui apparaissent dans l'œuvre de Louise Bourgeois comme une chose tout à fait extraordinaire. Progressivement, ce thème de Eugénie Grandet rentre dans les œuvres. Et il va à un moment culminer avec une violence absolument extraordinaire dans une œuvre qui est presque le pendant d'un diptyque. C'est-à-dire que Louise Bourgeois a créé deux œuvres qui s'appellent toutes les deux « Ma vie intérieure »,« My inner life ». L'un c'est le numéro 3, l'autre c'est le numéro 5. Le My Inner Life 3 va présenter un personnage nu, souriant, très détendu. C'est une chose assez étonnante. Il s'agit d'Eugénie Grandet. Et cette même base gravée qui a servi pour My Inner Life 3 va être utilisée pour Ma Vie Intérieure 5. Mais cette fois-ci dans un sens radicalement différent. Louise Bourgeois va créer un personnage, une femme, mais la femme est enceinte. Elle a un fœtus dans le ventre, un fœtus qui a la tête en bas, la bouche ouverte, en train de hurler, semble-t-il. La femme est totalement peinte en rouge, on dirait qu'elle est écorchée vive. Et sur le côté, Louise Bourgeois a rapporté 5 broderies, 5 panneaux brodés, sur lesquels se trouvent des citations extraites d'Eugénie Grandet. Au dos de cette œuvre, Louise Bourgeois a écrit « Mère et enfant, Eugénie et sa mère ». Il s'agit d'Eugénie en fœtus dans le ventre de sa mère, en train de hurler à la pensée des douleurs qui l'attendent. Elle va créer une série de 16 petits panneaux, 16 petits panneaux reliquaires, comme elle en faisait de temps en temps, c'est-à-dire en incluant un élément de tissu qui appartenait à son trousseau, soit son trousseau de jeune fille rapporté de France, soit des éléments qu'elle avait acquis lors de son long séjour, enfin de sa longue vie aux États-Unis, et sur lesquels elle va rapporter différents éléments, parfois des gravures, parfois des broderies, parfois des éléments peints. Et cet ensemble de 16 petits panneaux s'appelle encore une fois Eugénie Grandet et va d'une certaine manière donner un résumé sous une forme extraordinairement moderne, mais un résumé d'Eugénie Grandet qui est parfait. Il y a tout. Il y a à la fois la vie de province avec cette monotonie, cette sorte de stérilité, il y a ses travaux d'aiguille, ses travaux de couture, il y a les espoirs de génie avec ses fleurs, ses fleurs au nombre de 5. 5 est un nombre bénéfique pour Louise Bourgeois. 5, c'est lié à la famille. Elle avait 3 enfants, elle-même avait aussi frères et sœurs, donc c'était une famille de 5. Pour elle, c'était un nombre positif. Il y a la tente heureuse, puisqu'il y a une horloge avec le chiffre 10, 10 heures. Louise Bourgeois avait créé un poème, 10 heures, c'est l'heure où je t'attends, et c'est un poème qui était dédié à son assistant, Jerry Gorovoy, c'est l'heure à laquelle son assistant arrivait. Et pour Louise Bourgeois, c'était une délivrance, parce que quand son assistant arrivait, elle pouvait commencer à travailler, donc à revivre. Sa vie, c'était son travail. Et en réalité, quand Louise Bourgeois a cessé de pouvoir travailler, elle s'est laissée mourir. Et puis, il y a aussi l'évocation donc, de cette vie un peu pauvre, avec des tissus déchirés, éléments de toilette intime, il y a un certain nombre d'agrafes de femmes qui sont utilisées. Et puis il y a aussi la flétrissure, il y a ces boutons de fleurs qui sont flétris avant même d'être éclos. La vie d'Eugénie Grandet est parfaitement résumée et sous une forme extraordinairement apaisée, extraordinairement placide.
Quand je suis pessimiste, je m'identifie, je pense que mon sort a été en grande partie le sort d'Eugénie Grandet, oui. C'est-à-dire que le traitement qu'elle a reçu de son père l'a empêchée de fonctionner comme une personne normale et heureuse. Je ne veux pas dire que l'identification est totale, n'empêche qu'elle revient tout le temps.
Je crois qu'il y a aussi quelque chose de son corps à elle, notamment dans les dernières œuvres, et là, tout le temps, très 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 présent. Je me dis, mais quelle puissance a eu cet artiste jusqu'à l'âge de 97 ans d'arriver encore à passer un autre cap, de faire encore quelque chose de neuf par rapport à son propre parcours. C'est-à-dire ce dessin sur les gouaches qu'elle fait, qui sont des gouaches qu'elle humidifie, toujours avec la couleur rouge, puisque c'est vraiment la couleur de la violence, c'est la couleur du sang, des menstrues, c'est quelque chose de très féminin, vient s'exprimer avec des pinceaux où elle dilue, où elle dispose ses formes. C'est des autoportraits à chaque fois pour moi. C'est vraiment cette femme enceinte, c'est cette femme qui nourrit, c'est elle qui a attendu 2 enfants. Et quand elle dit que la maternité, c'est la chose la plus importante au monde pour elle, que lorsqu'elle a mis au monde Alain, son premier fils, donc après l'enfant qu'elle avait adopté, ça a été le plus beau jour de sa vie, on est loin de quelque chose d'inhumain. On est vraiment dans quelque chose qui exprime la violence aussi, en effet, c'est violent d'accoucher.
Mais ce sont des maternités sanglantes, tout de même.
Oui, absolument. Ce sont des maternités sanglantes. Pas seulement. Pour moi, pas seulement. C'est des maternités passionnelles. Et il y a quelque chose aussi qui me fait dire que ça n'est pas seulement ça qu'il y a derrière cela. Il y a une tendresse. Il y a, parce que, par exemple, il y a toujours le chiffre 5 qui s'exprime dans ses dessins. Ils étaient 5 dans sa famille. Et lorsqu'on regarde ses dessins, là, par exemple, elle a 5 mamelles, ou bien elle a 5 têtes, ou bien elle a ses mains avec les doigts, etc. Le chiffre, ou si elle fait des cercles, par exemple, des sphères qui peuvent être des ventres, c'est une puissance pulsionnelle, une force d'affect. Oui, ça c'est vrai, une énorme charge affective qui est là, qui s'exprime, mais pas que dans l'horreur et pas que dans la violence.
Et ces femmes spirales qui sont accrochées aussi, oui. Avec un autoportrait, une femme spirale avec deux petites jambes,
oui.
Alors, qui pendent comme ça, et ça a un côté très fragile, très, je sais pas, très vulnérable.
Oui, le fait de tourner sur soi-même, oui. Vous voyez, oui. C'est comme la petite danseuse qui tourne sur elle-même, et c'est l'image de, justement, de il y a dans Zarathoustra de Nietzsche, justement, il y a un petit passage. Je me suis demandé souvent si elle ne faisait pas allusion à ce petit texte de Nietzsche dans Zarathoustra où il décrit la vie pour lui. Il dit qu'il est enfermé dans une grotte et puis qu'il voit arriver la vie. Et c'est une petite fille qui se met à danser comme ça, en tournant sur elle-même. Et inatteignable. Et pourtant elle est là, mais inatteignable. C'est-à-dire la vie en soi. Qu'est-ce que c'est ?
C'est tout. C'est tout, c'est tout.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.
Louise Bourgeois, une émission de Françoise Esteb, avec Marie-Laure Bernadac, conservateur, chargée de mission en art contemporain au Musée du Louvre, commissaire notamment de l'exposition Louise Bourgeois au Centre Pompidou en 1988, auteur d'un ouvrage sur Louise Bourgeois publié aux éditions Flammarion, avec Jacqueline Coe, artiste, écrivain, réalisatrice de courts-métrages expérimentaux, auteur de « Tisser tendu au fil des jours, la toile de Louise Bourgeois » aux éditions du Seuil. Avec Yves Gagneux, directeur de la maison de Balzac, pour laquelle Louise Bourgeois a conçu sa dernière exposition, « Moi, Eugénie Grandet », Xavier Girard, historien d'art moderne, écrivain, Bruno Maton, peintre, critique d'art, et la voix de Louise Bourgeois, archive INA Martine-Auger. Attaché de production Anne Dubiran, enregistrement Éric Damasio, Éric Gérard, Étienne Leroy, Laurent Macchetti, mixage Claude Niort, réalisation Ghislaine David.
Though I'm past 100,000 miles, I'm feeling very still. I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom?
Cette émission se réécoute, ce podcast se partage en allant sur le site de l'émission sur franceculture.fr, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral, Annelise Signoret et Juliette Drone. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.